de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et modernisée. L'orbe suivante, magazine culturel, apprendre l'indonésien et une chanson indonésienne. Voilà notre programme pour aujourd'hui. Écoutez maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir chers auditeurs, vous écoutez maintenant le journal d'aujourd'hui. Ce soir avec moi Audrey, je vais vous présenter quelques informations importantes. Entre autres, le tourisme en Indonésie peut devenir une source de bien-être pour les communautés. Le gouvernement augmente la productivité des aliments et du bétail en utilisant la technologie et la recherche. Ce résultat, Namunkubono X a apprécié le 7e symposium et salon du textile traditionnel de l'ASEAN. Puan dirige la délégation indonésienne à la réunion des présidents du Parlement des pays G20 et Macron. L'engagement de l'Europe et de la Chine à réduire les émissions doit être accru. Chers auditeurs, voici les nouvelles incomplètes. Le tourisme en Indonésie peut devenir une source de bien-être pour les communautés. Le ministère du Tourisme et de l'Économie créative a organisé un programme de discussion avec l'équipe de journalistes. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative, Wisnutama Kusubandio, et sa vice-ministre Angela Tanusudibio ont participé directement à cette discussion le mardi 5 novembre 2019 au bloc 1 M Space Jakarta. Lors de la discussion, ministre Wisnutama a déclaré que l'industrie du tourisme pouvait devenir une ressource pour le bien-être du peuple indonésien si elle était gérée correctement.
Ini kekayaan alam yang pemandangan indah itu ada pemberian Tuhan, tetapi dengan
donc la richesse naturelle et les beaux paysages sont un cadeau de Dieu, mais avec notre capacité à tout gérer, tout emballer, créer une attraction, etc. Cela deviendra une source durable de bien-être. C'est aussi un potentiel extraordinaire, car le tourisme et l'économie créative sont au cœur de ce pays, qui génère des devises et un avenir très extraordinaire. Le ministre Wisnutama a ajouté qu'Ambon est un bon exemple pour l'industrie du tourisme. Après avoir été désignée ville de la musique il y a quelque temps. Pour cette raison, le ministère des Transports peut aider la ville à développer des infrastructures pour diverses destinations touristiques de la ville d'Ambon. Il s'agit également d'une véritable collaboration entre le ministère du Tourisme et l'Agence pour l'économie créative afin d'inciter la jeune génération d'Ambonais à faire preuve de plus de créativité dans la préservation de leur musique et de leur culture traditionnelle et à attirer davantage de touristes étrangers. Le gouvernement augmente la productivité des aliments et du bétail en utilisant la technologie et la recherche. Le bonus démographique de la population indonésienne est un défi pour répondre aux besoins futurs en matière d'alimentation et d'agriculture. Lors de la réunion de coordination nationale sur l'agroalimentaire, l'alimentation, la foresterie et la transformation des aliments, ainsi que sur l'élevage à Jakarta mardi 5 novembre, le ministre de la Recherche et de la Technologie, directeur de l'Agence nationale de la recherche et de l'innovation BRIN, Bambang Brojonegoro, a expliqué les priorités de développement de la recherche et la technologie dans les secteurs de l'alimentation et de l'élevage. Bambang Brojonegoro a déclaré que le gouvernement ferait la planification en coordination avec les ministères concernés pour accroître la production alimentaire et l'élevage. Le gouvernement accordera la priorité à l'utilisation de la technologie et des résultats de la recherche et collaborera avec l'industrie et le secteur manufacturier pour répondre aux besoins des produits alimentaires et du bétail dans le pays.
Hasil pertanian, pangan, tanaman keras dan segala macam, termasuk perikanan.
Les produits agricoles, les produits alimentaires, les cultures arboricoles et toutes sortes, y compris la pêche. Cela veut dire l'industrie basée sur l'agriculture, qui est une priorité dans le contexte de la transformation économique. Si le secteur agricole qui est développé, les agriculteurs doivent automatiquement augmenter leur production afin qu'elle puisse être absorbée par le secteur manufacturier. Bambang Brojonegoro a déclaré que le gouvernement veut assurer l'agriculture et l'élevage qui utilisent la technologie et la recherche possèdent une compétitivité élevée sur le marché. Le gouvernement veut aussi assurer le bien-être des agriculteurs, ainsi que le progrès de l'industrie de l'alimentation et de l'élevage, de plus en plus concurrentiel et rentable. La réunion de coordination nationale sur l'alimentation et agriculture sur le thème productivité et compétitivité de l'agriculture et de l'industrie alimentaire a été participée des membres de la Chambre de commerce et d'industrie indonésienne, CADIN, de divers secteurs. Sri Sultan Hamengkubuwono X a apprécié le 7e symposium et salon du textile traditionnel de l'ASEAN. Le symposium et l'exposition de tissus traditionnels des pays de l'ASEAN ont eu lieu à Yogyakarta du 5 au 8 novembre 2019. L'événement intitulé 7e symposium et salon du textile traditionnel de l'ASEAN est un événement organisé par la Société des arts du textile traditionnel de l'Asie du Sud-Est, TTASSEA, dans le but de faire progresser les connaissances scientifiques sur les textiles traditionnels. Le Sultan Hamengkubuwono X, le gouverneur du Yogyakarta, a apprécié la Société des arts du textile traditionnel de l'Asie du Sud-Est, TTASSEA, qui avait organisé ce symposium avec diverses activités qui ont l'essence de l'éducation, de la créativité et de loisirs. ATTS 2019 a pour thème « Embrasser les changements, respecter la tradition » et sera accompagné de présentations par des intervenants experts en textile de différents pays. Avec la tenue de cette ATTS 2019, on espère qu'il renforcera le réseau d'amitié entre les États membres de l'ASEAN. Puan dirige la délégation indonésienne à la réunion des présidents du Parlement de pays G20. La présidente du Parlement indonésien, Puan Maharani, a dirigé la délégation indonésienne à la réunion des présidents du Parlement de pays G20 organisée par l'Union interparlementaire, UIP, pour la 6e fois à Tokyo. La réunion, qui était une collaboration entre l'UIP et le Parlement japonais, s'est tenue dans un contexte de ralentissement de l'économie mondiale en raison de la guerre commerciale. Dans un communiqué officiel reçu mardi à Jakarta, le Parlement pourrait jouer un rôle dans l'augmentation du commerce inclusif, notamment en termes d'accès et de participation des MPME à la chaîne de valeur mondiale, ainsi que dans le renforcement du rôle des femmes entrepreneurs dans le commerce. L'UIP est une organisation qui réunit des parlements nationaux du monde entier pour mener des dialogues sur des questions d'actualité qui constituent un défi commun. La réunion à laquelle ont assisté 18 pays et deux organisations internationales, Parlement de l'Union européenne et l'UIP, a tenu une réunion de dialogue dans le but de rechercher une compréhension mutuelle pour faire face à l'affaiblissement du système commercial multilatéral. Macron, l'engagement de l'Europe et de la Chine à réduire les émissions doit être accru. Le président français Emmanuel Macron a déclaré que la coopération entre l'Europe et la Chine dans la réduction des émissions de réchauffement climatique serait décisive. Il a été dit que le président des États-Unis, Donald Trump, avait décidé de retirer son pays de l'accord de Paris sur le climat. Macron a déclaré mardi lors d'un salon à Shanghai que si nous voulons nous conformer à l'accord de Paris, nous devons augmenter les engagements de réduction des émissions et confirmer des nouveaux engagements pour 2030 et 2050. Il a ajouté que le retrait des États-Unis de l'accord de Paris aggravait la tâche de réduction des émissions et que la coopération entre la Chine et l'Union européenne était cruciale et que dès l'année prochaine, il serait donc nécessaire un programme d'amélioration de remplir collectivement cette tâche. La Pologne est intéressée à investir dans l'est de Blitong. L'ambassadrice de Pologne en Indonésie, Beata Stosinska, a déclaré que les hommes d'affaires de son pays souhaitaient investir dans le secteur du tourisme dans la région de Blitung Est, la province de Bangka Blitung. Lors de sa visite à Manggar, Blitung Est, l'ambassadrice de Pologne en Indonésie a déclaré mardi que Blitung Est était une très belle île, que son potentiel touristique était extraordinaire et qu'il cherchait des opportunités d'affaires à Blitung, en particulier pour le commerce et les investissements. D'après les résultats des visites dans divers lieux et des présentations dans la régence de Blitung et Blitung Est, ces régions ont offert de nombreuses opportunités d'investissement dans les domaines du tourisme, de l'agriculture et de la pêche. Elle a promis de rentrer à Blitung Est pour explorer et développer le potentiel des ressources naturelles dans la région. Bon, Serge Duditard, c'était les nouvelles.
Vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Les dirigeants ISIS sont tués, comment sont les prochaines étapes de l'Amérique ?» Lors d'une conférence de presse dimanche, à la fin d'octobre, le président américain Donald Trump a annoncé la mort d'Abu Bakr al-Baghdadi lors d'une attaque nocturne. Abu Bakr al-Baghdadi, qui se prétendait le califat ou dirigeant d'un État islamique dans l'ouest de l'Irak et dans le nord-est de la Syrie, était le chef de l'État islamique en Irak et au Levant ou ISIS, ou plus généralement traduit par l'État islamique en Irak et en Syrie. Depuis le 4 octobre 2011, le Département des Affaires étrangères des États-Unis a dit qualifier al-Baghdadi de terroriste mondial spécifiquement spécifié. Des récompenses ayant jusqu'à 10 millions de dollars américains pour des informations ayant conduit à son arrestation ou à sa mort. Baghdadi ete engjan ulema konu selonong Ibrahim Awad Ibrahim Al-Badri. Bian ke asete pokla ilete konu pur etke ang salafi radikal engage, Baghdadi napa montre le mouvement réel pour le diriger. Le rapport de Brookings Institution 2015 dans le camp de Bouka indique que Baghdadi est devenu plus tard le chef de l'État islamique et publié des vidéos de propagande haineuse à travers le monde. Ce qui est intéressant, c'est que la Russie semble douter des informations sur le décès al-Baghdadi. La Russie, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, continue de s'interroger sur la déclaration des États-Unis concernant la mort du dirigeant de l'État islamique Abu Bakr al-Baghdadi. Jusqu'à présent, le Kremlin n'est pas encore convaincu que le chef de l'État islamique, qui se surnommait le calife, a vraiment été tué, tandis que les Américains prétendent que les parties du corps al-Baghdadi ont été enterrées sur le fond marin. Le public international s'en souvient quand Edward Snowden, l'ancien employé de l'Agence nationale de sécurité américaine, ou NSA, a révélé que les renseignements provenant d'Amérique, de Grande-Bretagne et aidés par l'Israël avaient collaboré à la création de l'État islamique d'Irak et de Syrie. Le document révélait également que Baghdadi a mené un entraînement militaire intensif pendant un an auprès du Mossad, un agent secret israélien. De plus, le chef suprême ISIS a aussi obtenu une leçon de théologie et la façon de faire un discours. Les États-Unis ont affirmé que Abu Bakr al-Baghdadi a été tué. Le public définit certainement quelles mesures seront prises par l'Amérique, surtout pour faire face à ISIS, au milieu de nombreuses accusations selon lesquelles l'Amérique est impliquée dès le début de sa formation. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Bonsoir à tous. Voici aujourd'hui dans l'histoire, le 6 novembre. Le 6 novembre 1908, Cut Nyadin est décédé à Sumedang. Cut Nyadin était une héroïne nationale indonésienne d'Aceh qui s'est battue contre les Hollandais pendant la guerre d'Aceh. Après que la zone 4 Mukim ait été attaquée, elle s'est enfuie tandis que son mari Ibrahim Lam Nga s'est battu contre les Hollandais. Lorsque Ibrahim Lam Nga s'est battu à Gletarum, il a été tué le 29 juin 1878. Cela a énervé Cut Nyadin et lui a promis de détruire les Pays-Bas. Elle s'est donc battue seule à l'intérieur de Malabo avec sa petite armée. Cut Nyadin est décédé le 6 novembre 1908 et a été enterré au Mont Puyu, à Sumedang. Chers auditeurs, le 6 novembre 1947, la plus longue émission de télévision de l'histoire a fait ses débuts. L'une des chaînes de télévision américaines aurait publié un programme spécial qui l'on peut encore écouter jusqu'à présent. L'émission de la chaîne de télévision NBC s'appelait « Meet the Press ». Auparavant, l'émission était diffusée à la radio en 1945 sous le nom American Mercury Prison Meet the Press, commandée par Martha Rontree et Lawrence Pivac. L'objectif est de fournir des promotions et des avis sur un magazine ainsi que sur plusieurs questions qui se développent chez nous et à l'étranger. 2 ans plus tard, l'émission a été créée par la chaîne de télévision NBC, le 6 novembre 1947. Cet événement a fait ses débuts à la télévision. Chers amis, le 6 novembre 2008, le jour d'Obama est fixé au Kenya. Le jour d'Obama est une fête célébrée au Kenya le 6 novembre 2008 pour rendre hommage à la victoire de Barack Obama à l'élection présidentielle américaine en 2008. Après les résultats de l'élection américaine a été annoncé, le président du Kenya, Mwai Kibaki, a fixé le 6 novembre comme jour férié, car le père d'Obama, Barack Obama Sr., était kenyan. Serge Littard, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée « Déjà » chantée par Afghan. Chers amis, soyez toujours avec nous, la voix de l'Indonésie.
Bonsoir à tous, vous écoutez maintenant mon Indonésie de la voix de l'Indonésie avec moi Audrey. Ce soir, mon Indonésie intitulée « L'Indonésie est l'initiateur et le coordinateur du Partenariat économique global régional RCEP. Peu de gens comprennent les négociations du Partenariat économique global régional RCEP. En fait, les idées et les conseils du RCEP ont été mis en œuvre lors du 19e sommet de l'ASEAN en 2011 à Bali, en Indonésie, alors que l'Indonésie présidait l'ASEAN 2011. Comme l'a déclaré le ministre du Commerce Agus Suparmanto lors du 35e sommet de l'ASEAN à Bangkok le dimanche 3 novembre, Agus a expliqué que la question des négociations du partenariat économique global régional était une question importante qui devrait être résolue de manière substantielle en 2019. L'ASEAN, appuyé par 6 pays partenaires des accords de libre-échange, à savoir la Chine, la Corée, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Inde, a approuvé le principe directeur pour la négociation du RCEP et lancé les négociations du RCEP au 21e sommet de l'ASEAN en 2012 au Cambodge. Le RCEP devrait être en mesure d'encourager le progrès industriel des pays de l'ASEAN en rejoignant l'ASEAN avec les 6 partenaires des accords de libre-échange de l'ASEAN dans la chaîne d'approvisionnement régional du RCEP. L'Indonésie a été nommée pays coordinateur et le directeur général des négociations commercial international du ministère du Commerce, Imam Pambagio, a été nommé président du comité de négociation commerciale du RCEP et président des négociations avec l'ASEAN. La première série de négociations a débuté en mai 2013. Lors de son accompagnement du ministre du Commerce, Imam Pambagio a déclaré que sous la direction de l'Indonésie, les négociations du RCEP impliquant ces pays étaient considérées comme très importantes et devaient faire contrepoids aux mesures protectionnistes généralisées qui doivent être résolues cette année pour être signées en 2020. Selon Iman, le RCEP représente un défi pour l'Indonésie et une formidable opportunité d'accès au marché d'exportation pour des produits de qualité supérieure et l'entrée de flux d'investissement dans le secteur industriel. Selon Imam Pambagio, mener des négociations impliquant ces pays ayant des niveaux de développement économique différents et un niveau de sensibilité difficile n'est pas facile. Il faut de la patience, de la créativité et la capacité de faire naître des conseils et des idées qui résolvent divers problèmes. Les progrès des négociations sont très lents car il s'avère qu'il existe encore les pays partenaires qui ne bénéficient pas de la coopération des accords de libre-échange. Imam Pambagio a ajouté, les changements de gouvernement dans les pays membres influencent et même ralentissent le processus de négociation. Les négociations RCEP ont presque résolu tous les problèmes de négociation, en particulier ceux liés au texte de l'accord. Serge Littard, c'était mon Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
sekedar indah.
Vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée « Ne sera pas remplacé par Dia Mirella ». Et chers amis, soyez toujours avec nous. La Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Maintenant, nous allons vous présenter Magazine Culturel.
Chers auditeurs, vous écoutez maintenant le magazine culturel d'aujourd'hui. Je vais vous présenter maintenant Kalimantan du Sud, sur Bukit Matang Kaladan. Kalimantan du Sud-Est, l'une des provinces qui a des beautés naturelles cachées, Bukit Matang Kaladan, est l'une des lieux touristiques que vous devez visiter lorsque vous êtes à la capitale. Cette colline est très appropriée pour ceux qui ont un esprit aventureux, car pour atteindre le sommet des collines de Matang Kaladan n'est pas facile. On a besoin de l'effort. Vous devez préparer certains équipements et votre physique pour gravir la colline dont la pente atteint 60 degrés. Non seulement le terrain est écharpé, des rafales de terrain sont prêtes à perturber votre escalade. Il faut environ 30 minutes de montée pour atteindre le sommet de cette colline. Mais quand vous êtes arrivé, la fatigue sera payante. Le charme naturel unique des collines de Matang Kaladan est très séduisant. Ne vous inquiétez pas, le responsable a fourni une corde à chaque visiteur qui veut grimper. Au sommet de la colline, vous trouverez également plusieurs points propices à prendre des photos. Il existe également un hamac que les résidents y ont préparé pour favoriser votre confort. De temps en temps, le sifflement de l'oiseau se mêle harmonieusement à une brise légère qui vous rend frais. La colline de Matang Kaladan se trouve à proximité de la jetée du barrage Riam Kanan, à environ 25 km du centre de la ville de Banjarbaru. Bukit Matang Kaladan est situé dans le village de Tiwingan Lama, au district d'Aranyo, à la régence de Banjar, la province du Kalimantan du Sud. Cette colline est située dans le secteur de la jetée du barrage de Riam Kanan, à environ 1h30 de l'aéroport Samsudi Nuri. Ce n'est pas difficile de trouver une route pour monter à cette colline de Matang Kaladan. En fait, nous pouvons voir le sommet depuis le parking des véhicules. Avant de grimper au sommet de Bukit Matang Kaladan, vous devez garer les véhicules sur le quai. Après cela, vous devez passer un chemin pour arriver à la colline de Matang Kaladan. Chers amis, la vue sur cette colline ressemble à celle de Raja Ampat. Nous verrons clairement les petites îles autour de cette colline. C'est peut-être pour cette raison que cette colline a été surnommée Raja Ampat du Kalimantan du Sud. Cette colline est encore très belle car il y a beaucoup d'arbres encore verts. Le réservoir de Riamkanan peut également être vu lorsque vous êtes au sommet du pic Matankaladan. Alors, vous êtes prêt à grimper cette colline de Matankaladan?
Chers amis dans le monde entier, merci d'être fidèles à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Vous avez écouté tout à l'heure la troisième chanson intitulée « Tant que tu es heureux » chantée par Armada. Et vous êtes toujours avec nous, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, Voici apprendre l'indonésien.
Bonsoir à tous, on se retrouve encore dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Vous êtes avec moi Audrey, le sujet d'aujourd'hui est Semoga panjang umur. Semoga panjang umur. Ou en français, je vous souhaite une longue vie. Bonne écoute. Chers amis, je vais vous donner l'exemple d'une conversation entre Dinda et Tony, intitulée Semoga panjang umur. Semoga panjang umur. Ou en français, je vous souhaite une longue vie. La situation est, c'est l'anniversaire de Tony. Dinda et Joko ont fait une surprise et ont souhaité un joyeux anniversaire à Tony et ont prié pour lui. Ils sont tous chez Joko. Bonne écoute. Endah, selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur dan bahagia. Tony, terima kasih. Omong-omong, dari mana kalian tahu hari ulang tahunku? Endah, dari Facebook. Tony, oh, baiklah. Chers amis, après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire des vocabulaires et des phrases indonésiennes liées au sujet d'aujourd'hui. Semoga panjang umur. Semoga panjang umur. Ou en français, je vous souhaite une longue vie. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot et chaque phrase deux fois et vous pouvez les répéter après moi. Panjang umur. Panjang umur. En français, longue vie. Sehat. Sehat. En français, en bonne santé. Bahagia. Bahagia. En français, heureux. Sejahtera. Sejahtera. En français, prospère. Omong omong. Omong omong. Dis donc. Impianmu menjadi kenyataan. Impianmu menjadi kenyataan. Tes rêves se réalisent. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Bon anniversaire. Dari mana kalian tahu hari ulang tahunku? Dari mana kalian tahu hari ulang tahunku? Comment connaissez-vous mon anniversaire? Dari Facebook. Dari Facebook. De Facebook. Chers auditeurs, dans le dialogue, Endah dit une prière pour l'anniversaire de Tony. Elle dit « Semoga panjang umur dan bahagia ».« Semoga panjang umur dan bahagia ». Quand l'anniversaire de quelqu'un, d'habitude, on dit des prières et des espoirs à cette personne-là. Voici des exemples d'expressions de prière et d'espoir en indonésien lorsque l'anniversaire de quelqu'un. Semoga panjang umur. Semoga panjang umur. Ou j'espère que tu auras une longue vie. Semoga kamu selalu sehat. Semoga kamu selalu sehat. Ou j'espère que tu seras toujours en bonne santé. Semoga kamu selalu bahagia dan sejahtera. Semoga kamu selalu bahagia dan sejahtera. Ou, j'espère que tu seras toujours heureux et prospère. Semoga impianmu menjadi kenyataan. Semoga impianmu menjadi kenyataan. Ou, que vos rêves se réalisent. Chers amis, la suite Tony dit omong-omong, dari mana kalian tahu hari ulang tahunku? Omong-omong, dari mana kalian tahu hari ulang tahunku? Bon, le mot omong-omong dans cette expression est dit pour changer le sujet. Mais le mot omong-omong n'est utilisé que dans la situation informelle. Les Indonésiens disent souvent le mot ngomong-omong plutôt que omong-omong. Le mot ngomong-omong a le même sens et la même fonction que omong-omong. « Serge Litter, avant de terminer le programme de l'apprendre indonésien, pour comprendre plus, écoutons la conversation encore une fois. Endah, selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur dan bahagia. Tony, terima kasih. Omong-omong, dari mana kalian tahu hari ulang tahunku? Endah, dari Facebook. Tony, oh, baiklah. Chers amis, voilà l'édition de la rubrique d'apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous qui voulez savoir plus indonésien. On se retrouvera demain avec d'autres sujets intéressants. Merci beaucoup pour votre attention et au revoir.
Yeah. kita harus bahagia. Kita harus bahagia.
Chers amis, dans le monde entier, c'était la quatrième chanson intitulée « Dois être heureux » chantée par Yura Yunita. Et maintenant, nous allons continuer avec notre programme magazine musical.
Sœur Jolitar, bonsoir. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie au monde, avec moi Audrey. Ce soir, dans la rubrique magazine musical, je vais vous présenter une chanson intitulée « Tokechang ». Chers amis, Tokechang est souvent chanté par des enfants javanais occidentaux à l'école. Bien que les paroles soient courtes, la chanson Tokechang a un message profond. Le mot Tokechang est une abréviation de Gecko mangeant des noix. Symbolise une personne qui mange souvent goulûment. Par conséquent, la chanson Tokechang nous a conseillé d'éviter l'avidité et l'égoïsme et de devoir être un humain qui veut partager avec les autres. Bon, chers auditeurs, voici la chanson intitulée « Tokechang » chantée par 10 to 5. Merci, bonne écoute.
Tokechang bala gendir tos blong angan kacang safari yuk kosong tokechang bala gendir tos blong angan kacang safari.
C'était l'émission quotidienne en français pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.